Les pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, questionner le monde, s'émouvoir, réfléchir sur l'évolution de l'humanité et la notion de progrès. C'est à tout cela que vous invite le festival Atmosphère qui se déroule ce week-end à Courbevoie dans l'Ouest parisien. L'occasion de se demander avec nos invités qui participent si notre espèce est capable de relever le défi d'apprendre à vivre harmonieusement sur la seule planète habitable jusque-là que nous connaissons dans le coin. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Nous sommes installés au Palais d'Iéna, juste en face de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris. C'est là que se trouve le Conseil économique, social et environnemental. Mais c'est surtout ici que l'association Reporters d'Espoir a organisé un événement plein d'énergie positive, le rendez-vous acteurs de solutions et des médias qui font bouger la France. Nous étions obligés d'y être. Depuis 2004, Reporters d'Espoir milite pour la diffusion d'un journalisme qui met en avant les solutions pour mieux vivre ensemble et qui innove face aux défis économiques et environnementaux. Cette année, le thème est la créativité et nous en avons bien besoin. Bonjour Claudie Aigneret.
Bonjour.
Vous êtes l'une des marraines, ou en tout cas l'une des participantes à cette manifestation. Vous êtes scientifique, spationaute. Vous avez réalisé deux missions dans l'espace, à bord de la station Mir en 1996 et de la station spatiale internationale en 2001. Aujourd'hui, vous êtes ambassadrice et conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Alors avant de vous parler de votre rôle ici à Reporters d'Espoir, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Est-ce que notre planète paraît plus fragile vue de l'espace ?
Oui, c'est une question à laquelle on est souvent amené à répondre parce que on est, voilà, ce privilège, 560 astronautes dans le monde, avoir pris de la distance par rapport à la Terre et regarder par le hublot à 400 km cette planète absolument magnifique, bleue et blanche, dont on voit bien l'isolement, je dirais, dans un cosmos plutôt hostile, dont on voit la fragilité, la vulnérabilité, la toute petite couche d'atmosphère si mince qui permet de protéger la vie, on se rend vraiment compte à cette distance de sa petitesse et donc de la finitude de notre planète, de la finitude de ses ressources et du fait que, je dirais, il n'y a pas vraiment d'espoir qui viendrait de l'extérieur. L'espoir pour sauvegarder cette planète et son humanité également, elle vient de ces humains qui, individuellement ou collectivement, sont l'équipage de cette planète. Et on le dit souvent, ce qu'on appelle pour nous le overview effect, cette capacité à voir justement de haut et en large notre responsabilité. Il y a bien sûr aussi les yeux des satellites que les agences spatiales lancent, et ces satellites peuvent nous permettre, je crois, d'avoir 26 des 50 indicateurs de la COP21 pour regarder comment évolue notre planète, le réchauffement climatique. Mais je dirais que les yeux de ces satellites, s'ils nous fournissent des données scientifiques, ils sont pas capables de s'émerveiller en disant « mais que c'est beau !»
Alors vous avez témoigné, j'ai lu ça en préparant cette émission, qu'à un moment, vous avez pris 90 minutes sur votre sommeil pour admirer justement la Terre, vue du ciel. Est-ce que ces images vous habitent quand vous participez par exemple à une journée comme celle-ci, qui est très concrète, on va le voir avec nos autres invités, des gens qui portent des petites initiatives, mais qui ont un grand impact si on les met bout à bout?
Oui, absolument, j'ai toujours cette vision et j'ai cette envie qu'on puisse comprendre que à partir des progrès scientifiques, à partir des développements technologiques, on a des outils très puissants aujourd'hui qui, je dirais, sont une exigence de plus pour nous, êtres humains, à être encore plus intelligents qu'on ne l'était précédemment, parce qu'il nous faut cette responsabilité, cette mise en sens, cette bonne compréhension pour être des acteurs de ces futurs que l'on souhaite, et pas simplement subir des futurs qu'on ne saurait pas contrôler.
Parce que l'enjeu, on est bien d'accord, ce n'est pas l'avenir de la planète, c'est l'avenir de l'humanité.
La planète, elle continuera à vivre, mais l'humanité, je crois qu'il faut effectivement qu'on soit attentif. Alors il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de l'éducation de nos enfants. Je dis souvent, mais quels enfants allons-nous laisser à notre humanité ou quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Je renverse un petit peu le paradigme habituel. Donc l'éducation, c'est un élément important. Et puis, le partage d'informations, de connaissances qui donnent du fond et qui ne donne pas seulement de l'immédiateté d'informations, parfois mal comprises, mal diffusées. Donc c'est ça aussi, Reporters d'espoir. Pour moi, c'est cet espoir qu'il participe également à ce partage de façon à ce qu'on soit en confiance et en responsabilité par rapport à l'avenir.
Et puis c'est diffuser, c'est aussi notre rôle hein, de médias, de diffuser les bonnes pratiques. Alors nous avons deux pitchers, comme on dit, il y a beaucoup d'anglicisme ici à Reporters d'Espoir. Nous on est un média francophone, alors on va dire deux orateurs voilà, qui vont s'exprimer durant cette journée. Marion Canal, bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Martinez, bonjour.
Bonjour.
Alors Marion Canal, vous avez créé, et c'est ça dont vous êtes venu parler ici à Reporters d'Espoir, Athénolive. Alors c'est une nouvelle approche de biocontrôle pour protéger les olives des ravageurs, notamment de la mouche d'olive. Alors on va dire on est très très loin de la préservation globale de la planète. Mais non, parce que les olives, on en a besoin, les arbres, on en a besoin. Et vous vous dites, on peut les protéger autrement qu'avec des produits chimiques.
Exactement, c'est exactement ça. C'est un projet beaucoup plus terrestre. Hein. L'idée, c'était vraiment de protéger, comment protéger les oléicultures du bassin méditerranéen qu'on a, donc, par exemple, dans le sud de la France ou encore en Italie. Comment les protéger tout en enlevant tous ces pesticides et insecticides qui sont beaucoup trop nuisibles pour notre environnement, mais aussi pour les oliviers. Les olives qu'on mange, on n'aime pas forcément...
Et puis une olive, ça ne s'épluche pas.
Voilà, c'est ça. Donc on a les pesticides en direct.
Alors le problème des olives, c'est qu'elles ont des mouches qui les attaquent. On a vu là, la dernière saison, ça a été absolument terrible sur tout le bassin méditerranéen jusqu'en France.
C'est ça.
En quelques mots, parce qu'à la radio, on n'a pas de schéma, on n'a pas de photo, il faut être très simple, très clair. Qu'est-ce que vous avez inventé qui est innovant et qui permet donc de combattre cette mouche qui fait pourrir les olives?
Alors nous, on s'est simplement inspiré de la nature, puisque la nature est bien faite, et on s'est aperçu qu'il existait des interactions sensorielles entre la mouche et l'olive. Parce qu'une mouche à distance, lorsqu'elle va vouloir pondre sa larve dans une olive, elle va savoir qu'une olive est déjà occupée. Donc, il y a bien une substance qui est déposée par une mouche sur une olive qui va donner le message aux autres mouches environnantes comme quoi l'olive est occupée. Donc, on s'est inspiré de cette substance pour créer un principe répulsif qu'on va disposer tout autour des oliviers pour envoyer des messages, des faux messages hein, aux autres mouches, comme quoi tout l'arbre est occupé. Ça va repousser les mouches des oliviers. Et dans un deuxième temps, on aura donc notre système d'action qui attirera les mouches qui ont été déviées pour les traiter et faire en sorte qu'elles n'infectent plus les olives.
Et voilà, le but étant d'être plus malin que la mouche.
Exactement, mais surtout de s'inspirer de la nature.
Ça s'appelle le biomimétisme.
Exactement, c'est le biomimétisme.
Voilà, donc vous allez présenter ça ici à Reporters d'Espoir, cette innovation prometteuse. Aujourd'hui, vous l'avez déjà mise en application ?
Non, du tout, je suis encore étudiante. Donc on a eu ce projet, cette idée avec six copines pour sauver un peu notre planète. Et on commence les manips bientôt pour avoir des résultats, on l'espère, en 2019.
À suivre donc. Voilà. Et vous, Stéphane Martinez, c'est pas avec six copines, c'est avec une bande de copains. 15 jours, vous avez eu une idée. En fait, vous êtes restaurateur, vous tenez avec votre frère le bistrot, le petit Choiseul, dans le centre de Paris. Et vous avez créé Moulineau. C'est une entreprise qui valorise les déchets de la restauration parce que chacun, pareil, a son rôle à jouer.
Exactement. Alors, on est spécialisé dans la valorisation de ces restes alimentaires. Et en fait, ça m'est venu naturellement. Alors, quand vous parliez de... Ça s'est passé autour d'une table, on refait aussi le monde autour d'une table, hein, et dans un bistrot. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai observé ma poubelle, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de matière organique à l'intérieur. Et là, a commencé à avoir un petit déclic, puisque à l'époque de ma grand-mère, ça n'existait pas, ça. Il y avait déjà des filières qui étaient plus ou moins bien organisées sur cette matière-là, puisqu'il y avait les seaux à cochons dans les établissements de la restauration. Et le pain était collecté pour tout ce qui était éleveur de volailles ou les éleveurs de chevaux. Et le marc de café partait chez jardinier, puisque c'est un apport carboné qui aide à faire un compost de qualité. Le premier choc a été quand j'ai suivi le tracé de ma poubelle et quand je me suis rendu compte que cette poubelle avec cette matière organique partait dans des centres de valorisation énergétique ou des centres d'enfouissement technique.
Oui, c'est-à-dire pas valorisé du tout.
En gros, on va parler franchement, c'est brûlé ou c'est foutu dans une décharge.
Et donc au lieu de simplement constater, vous avez décidé d'agir. Alors expliquez-nous, aujourd'hui vous avez des camions qui tourne en Île-de-France qui marche au biogaz et vous avez créé du compost. Donc là, on est vraiment sur les déchets retournent à la terre. Vous avez combien de restaurants qui vous suivent actuellement ?
On a plus de 400 points de collecte en Île-de-France et on a à peu près toute la gamme de restauration. Ça va du gros industriel de la restauration, du restauration traditionnelle, de l'hôtel-restaurant, du marché alimentaire, de l'événementiel puisqu'on a été opérateur de la COP. Voilà, on a à peu près 400 points de collecte et on a valorisé plus de 6000 tonnes, voilà, en énergie, en méthanisation.
Et vous vous lancez dans le compost ?
Et bien entendu, puisque j'ai démarré cette aventure en me rendant compte aussi que l'agriculture intensive, ça faisait pas du bien à nos sols, puisque derrière ça, il n'y a plus de vie organique due aux pesticides qui sont mis dans les sols, que les vers de terre, qui ont un rôle essentiel sur notre planète, disparaissent. Donc, oui, j'ai commencé à valoriser mes restes alimentaires dans mon resto il y a une dizaine d'années avec des vers de terre dans ma cave. Aujourd'hui, ça fait un mois, on a monté la première plateforme en France où on fait ce que j'appelle un compostage haute couture, puisqu'on va faire du compostage en mélangeant ces restes alimentaires qui sont de l'azote avec du carbone qui sont des déchets verts. Et on va affiner tout ça avec des vers de terre de chez Moulineau qui vont nous faire le meilleur engrais qui existe au monde. Voilà.
Vous en êtes sûr, attention, hein, parce qu'au monde, là, vous parlez sur RFI,
j'en suis sûr,
on peut faire des comparatifs de compost. Hein.
J'en suis sûr, tous les vers de terre du monde font le même engrais.
Et les restaurateurs vous ont suivi facilement parce que c'est beaucoup de contraintes. Hein. Déjà, pour un particulier, trier ses déchets, tout ça, c'est compliqué. Mais pour un restaurateur, c'est quand même une contrainte en plus avec le rythme de la cuisine, de la production, etc. C'est ce qui fait que longtemps, dans la restauration, on ne s'est pas tellement intéressé à ces sujets.
Exactement. Mais les restaurateurs, il faut les accompagner. Leur cœur de métier, c'est pas de trier les poubelles. C'est d'accueillir les clients, de leur donner une nourriture de qualité dans un cadre agréable. Voilà ce qu'est un restaurant. Donc on les accompagne justement, puisque moi, restaurateur depuis 3 générations, une cuisine, je connais ça par cœur, une salle, je connais ça par cœur, j'ai le langage adéquat avec le personnel. Donc automatiquement, on leur fournit tout ce qui est formation, les outils adaptés, on leur explique, on les forme de manière à simplifier le travail des équipes. Une fois qu'on fait ça, on leur dit que cette matière-là, on va en faire du gaz, l'électricité. Demain, on en fera du compost pour nourrir les sols, de manière à ce qu'ils aient des légumes de qualité dans leur établissement. Et automatiquement, on les accompagne, on les forme et on les accompagne.
Vous les accompagnez et ça marche.
Et ça marche.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes installés au Palais d'Iéna à Paris à l'occasion de l'opération La France des Solutions organisée par l'association Reporters d'Espoir. Claudie Aigneret, toutes les initiatives mises en avant ici sont à petite échelle évidemment, quoique quand même 400 restaurants c'est quand même 6000 tonnes de déchets collectés, c'est important. Les olives finalement c'est toute une agriculture, toute une économie, tout un patrimoine culturel aussi à l'échelle du bassin méditerranéen. Mais en fait ça indique, quelle que soit l'initiative, dans quelle direction il faut aller aujourd'hui. C'est ça qui compte, c'est de la créativité bien dirigée, j'ai envie de dire.
Oui, il y a les deux éléments, comme vous le dites. Il y a effectivement une direction, donner du sens, être dans le contexte et savoir ce qu'on veut par rapport à la planète, la biodiversité ou l'humanité. Et puis il y a cet aspect créativité qui est le thème de cette réunion avec Reporters d'Espoir. Et je trouve que ce qui a été montré là ce matin, ce qui a été décrit, c'est justement cette créativité. On parle beaucoup d'innovation, hein, la question toujours par rapport à un progrès de notre société. Là, on est des formes d'innovation, que ce soit le biomimétisme ou la vôtre, qui sont même, on pourrait dire, une innovation frugale. Pas obligatoirement une innovation avec une technologie de très très haut niveau. Et ça, c'est important de le prendre aussi à disposition. Je crois que l'innovation, il faut l'avoir dans toutes ses dimensions. Parfois, c'est une science et des développements technologiques très high-tech. Parfois, c'est quelque chose qui va se diffuser très largement. Parfois, c'est l'inspiration de la nature. Ça, c'est magnifique. Et bon, ça marche beaucoup dans le monde de la technologie, justement. Et puis, cette innovation plus frugale qui rend chacun capable d'intervenir, même s'il n'est pas un grand scientifique, même s'il n'est pas un grand ingénieur, mais il a une capacité d'action. Et ce qui est important, c'est d'avoir une capacité d'action, d'être créatif par rapport à ce sens, effectivement, qu'on partage de l'environnement, de l'humanité.
Cette créativité, elle est intrinsèquement humaine.
Oui, alors je sais pas dire, je pense que certaines espèces animales ou certaines espèces végétales font preuve aussi de créativité dans leur adaptation à des changements de contraintes, mais je crois que c'est quand même effectivement un propre de l'homme qu'on doit probablement faciliter. C'est pas toujours facile d'exprimer sa créativité quand on est en dehors du chemin habituel. Et quand, ben voilà, vous apportez une solution, trouveur de solutions et pas simplement exposer un problème. Je crois qu'on a besoin effectivement aujourd'hui de trouver des solutions et de les apporter. Parfois, c'est des solutions un petit peu exotiques, mais quand elles marchent, quand elles sont portées avec conviction, quand elles sont accompagnées, comme vous l'avez dit très, très justement, ça marche et ça fait sens.
Marion Canal, avec vos copines, c'était ça, votre envie d'innover, d'inventer, de créer, c'était de pouvoir apporter votre petite pierre, de faire quelque chose.
Exactement, oui, voilà, c'était en fait la question de se dire, voilà les soucis environnementaux qu'on a à l'heure actuelle, comment on peut les, voilà, à petite échelle, en apportant notre pierre à l'édifice, comment on peut les sauver, comment on peut apporter, voilà, nos idées. On est en école d'ingénieur, donc on nous stimule vraiment à être créatif et à penser à demain. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif avec mes copines de se dire, voilà, on veut quand même participer à sauver l'environnement.
Stéphane Martinez, pareil, on l'a compris, c'est ça votre moteur? Parce que bon, faut quand même se lever le matin et faire toutes les activités en parallèle. Vous êtes rajouté ça en plus de votre bistrot.
Oui, alors je me suis rajouté ça en plus de mon bistrot, mais aujourd'hui, je vais être franc avec vous, je suis de moins en moins dans mon bistrot. Je peux pas être au four ou au moulin, c'est pas possible, sinon le moulin il tourne pas. Donc le bistrot, c'est mon frère qui est dedans, je déjeune dans mon bistrot, donc je suis ravi, je suis toujours au quotidien dans mon établissement, mais on peut pas être partout.
Donc aujourd'hui, vous êtes massivement dans le biogaz et le compost, ouais, et ouais. Vous avez des perspectives de développement importantes, parce qu'en Ile-de-France, il y en a un paquet des restaurants.
On a beaucoup de perspectives. Je vais d'abord rester en Ile-de-France, c'est très important, de modéliser notre modèle et de rendre ce modèle-là économiquement viable. C'est très important. Il y a un gros projet social dans cette aventure, hein, puisque derrière ça, on prend des personnes éloignées de l'emploi et on leur propose des parcours qualifiants. On a créé quand même 12 postes de chauffeurs-collecteurs. Donc c'est très important. Au-delà de l'aspect environnemental, il y a aussi un aspect social qui est très important et fort chez Moulineaux. L'aspect environnemental, vous le savez, puisque pour nous, je pense que cette matière organique, une fois qu'elle est triée, on lui donne une seconde vie. C'est très important pour nous. Et l'aspect économique, puisqu'on est dans un modèle économique où il faut qu'on montre que oui, on est rentable.
Et ça marche, parce que vous avez créé combien d'emplois?
On a créé aujourd'hui 25 emplois. Et les 25 qu'on a créés viennent du monde de la recherche d'emploi.
Oui, donc on comprend bien que là, vous êtes sur les trois piliers économiques, social et environnemental.
Mais le social est très important. Enfin, on s'en rend compte aujourd'hui, tous les gars qui bossent chez Moulineaux, c'est des chercheurs de matières premières dans la philosophie. Voilà, c'est très important à dire.
Oui, ça revalorise aussi le métier de la gestion des déchets qui n'est pas toujours bien valorisé dans nos sociétés. Claudie Aigneret, Thomas Pesquet, qui est le dernier Français à être allé dans l'espace, dit et redit, comme vous, finalement, il faut protéger notre planète. Mais lui, il dit parce que l'humanité n'a pas de plan B. Est-ce que vous êtes complètement d'accord avec ça, hein?
Je suis d'accord avec le fait qu'effectivement l'humanité, son berceau, c'est la Terre, ce qui n'exclut pas, parce que nous en avons parlé un tout petit peu avant de prendre le micro.
D'où ma question.
D'où votre question. De penser à effectivement une humanité toujours exploratrice et qui va aller à la découverte et à la conquête d'autres planètes. C'est vrai qu'au sein de l'Agence spatiale européenne, je porte un concept qui est essayer de penser, pourrait-on construire un village sur la Lune avec tout ce que ce concept porte de projet de civilisation, je veux dire, se mettre en dehors de toute contrainte habituelle, avec justement la possibilité de repenser un petit peu notre monde terrestre, de lui apporter peut-être des solutions auxquelles on ne pense pas quand on est confronté à notre horizon terrestre. S'élever, ça fait toujours du bien. Changer de regard, ça fait toujours du bien. Et on parle beaucoup d'installations potentielles, d'une petite partie de notre humanité sur la planète Mars, pourquoi pas sur la surface de la Lune. Mais je suis d'accord avec Thomas Pesquet, mais ça n'est pas une fuite de l'humanité par rapport à sa planète. Notre premier devoir est de préserver notre planète, notre humanité en tant qu'humanité avec ses liens terrestres, ce qui n'exclut pas qu'elle aille plus loin, qu'elle explore, mais pas comme fuite, comme désir de connaissance et comme espoir de solutions nouvelles.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Lola Cayatte pour les logistiques, à François Porcheron pour l'installation de ce studio au Palais d'Iéna. Restez avec nous sur RFI, on se retrouve juste après le flash d'info, le temps pour vous d'avoir des nouvelles de l'actualité et pour nous de regagner nos studios à Issy-les-Moulineaux. À tout de suite.